Europe Soir Weekend.
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
Le voici, votre rendez-vous du week-end, les grandes voix d'Europe 1, ce dimanche 13 juin, en débat, en direct jusqu'à 19h. Nous avons inauguré la quinzaine à Roland-Garros et nous la clôturons ce soir depuis notre studio installé près du cours central. Avec Laetitia Krupa, journaliste politique, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, Philippe Moreau-Chevrolet, président de MCBG Conseil, spécialiste de communication politique. Soyez les bienvenus.
Bonsoir,
bonsoir
Wendy.
À tous les trois. Une réaction immédiate. Je vais donner la parole à celui qui connaît le plus le tennis autour de cette table. Première fois à Roland-Garros, il nous le disait en 79, cher Frédéric Dabi. Ce match, il est fou là. Hein. 3h20 de jeu.
C'est un match fou, c'est un cinquième set. On ne sait pas ce qui va se passer par rapport à la finale de l'année dernière où Nadal avait écrasé Djokovic en 3-7. Mais là, ce qui se joue, Wendy, c'est historique. C'est un passage de témoin. Au cours des 16 dernières années, on a eu les victoires de Roland-Garros, trustées par Nadal, bien sûr, Djokovic et une fois Roger Federer. Il y a une fois la parenthèse Stanislas Wawrinka, un autre Suisse. Et là, c'est est-ce que c'est la next gen, la nouvelle génération qui, pour la première fois, va s'imposer à Roland-Garros. Dominic Thiem, l'Autrichien, avait échoué deux fois au cours des trois dernières années. Et là, peut-être, Stefanos Tsitsipas, grec, qui a été en demi-finale l'année dernière, pour la première fois peut-être, il va... 23 ans dans quelques semaines. Et c'est vrai que pour la première fois, on verrait quelqu'un de la nouvelle génération qui était à peine né quand Rafael Nadal a gagné Roland-Garros pour la première fois en 2005, qui va mettre le pied dans la porte et sortir nos trois légendes. Federer, Nadal est là, le représentant, Novak Djokovic, mais il ne se laisse pas faire. Il a été mené 2-7-0, 2-7 partout. C'est peut-être lui qui va gagner.
Oui, il s'accroche hein, aussi, le grec de Tsitsipas, que vous découvrez manifestement, Laetitia Krupa, dans toute sa... de son splendide jeu et sa splendeur.
Oui, évidemment, c'est la génération Z. Hein, vous avez raison, Frédéric. Vous êtes bon hein, pour le storytelling, quand même. On a envie, effectivement, que cette nouvelle génération mette les vieux, enfin, vieux, pas si vieux, dehors. Mais c'est vrai que le match, là, est
avec élégance.
Exactement.
18h38 et on suivra tout cela avec vous. Je voulais qu'on revienne sur ces scènes. Alors vous les évoquiez, ce deux poids deux mesures entre le couvre-feu et la dérogation ici à Roland-Garros avant-hier, Philippe Moreau-Chevrolet et ces jeunes sommés par les forces de l'ordre de quitter l'esplanade des Invalides. On a eu la rebelote hier soir avec de nouveau les forces de l'ordre face à cette difficulté de la contrainte sanitaire. Bon, on est avec eux parce que c'est compliqué. Et puis, l'adresse du gouvernement, de l'OMS, du G7, de l'Europe sur la cadence vaccinale. Il y a 30 millions de Français qui ont reçu une première dose. Il faut aller plus loin, plus vite.
Oui, c'est le message de l'OMS, alors qui à la fois nous demande de partager nos vaccins et en même temps d'accélérer fortement la cadence en disant que l'Europe n'est pas du tout sortie du bois, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et que si on n'accélère pas la vitesse de croisière des vaccinations, on va avoir un gros problème à la rentrée, voire plus tôt, d'ici quelques semaines, à la rentrée. Donc oui, il y a une grosse pression sur le gouvernement pour accélérer la cadence, et il y a un échec de la stratégie du tout vaccinal qu'on voit en Grande-Bretagne, qui fait qu'on se demande si ça suffit, la vaccination. Alors, on ne parle pas de reconfiner du tout, mais on parle de contrôler la qualité de l'air avec des capteurs CO2, avec des filtres HEPA. Il y a ça dans les écoles du 9e arrondissement, par exemple, où je vis. C'est très, très bien. Oui. Les gamins sont protégés, sachant qu'ils ne sont pas vaccinés. C'est les non-vaccinés qui vont être les moteurs de l'épidémie dans les semaines à venir. C'est pour ça, d'ailleurs, que le gouvernement accélère la vaccination des 12-25. À ce propos, il serait bien de la faire à l'école. On ne sait pas très bien pourquoi c'est plus possible alors que ça l'était dans les années 60. Souvenez-vous de ces images de vaccination. Alors, Frédéric nous parlait de ses souvenirs de Roland-Garros quand il était petit. Moi, j'ai des souvenirs très précis d'avoir été vacciné à l'école. Je ne pense pas qu'on ait perdu ce savoir-faire.
Oui. Donc,
moi aussi, l'hépatite B, mais souvenez-vous, ça ne nous avait pas porté chance. Hein,
et personne à l'époque ne défendait le virus, il faut bien l'avouer. Alors qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'avocats pour le virus et contre la vaccination.
C'est ça, vous avez tout à fait raison. Tout le monde a peur d'un procès, tout le monde a peur de ce précédent. Hein, l'hépatite B, on a été, en tout cas moi, j'ai été vacciné. Et ensuite, il y avait cette polémique d'une maladie consécutive à ce vaccin.
Sauf que la haute autorité de santé a donné son aval. Hein. Les 12-15 ans peuvent être vaccinés à partir de mercredi.
Oui, mais quand on lit Alain Fischer, le monsieur vaccin, vous savez, c'était celui qui était désigné pour faire la communication autour du vaccin, mais qui a disparu pendant quand même, à mon avis, un temps long.
Oui.
Il dit qu'effectivement, ces mots sont vraiment étranges. C'est éthiquement inacceptable de considérer que la vaccination des adolescents va être concrétisée pour qu'il y ait une immunité collective parce qu'il n'y a pas assez d'adultes qui sont vaccinés. Donc c'est éthiquement inacceptable, mais c'est un impératif arithmétique. Alors ça, franchement, alors Philippe, vous êtes bon en communication, vous êtes, c'est votre spécialité, on ne
allez
comprend rien.
Allez coacher à la fiche.
C'est vraiment se faire un
surnommé, chose. Il est surnommé quand même Fisher Price par ses collègues, donc il y a une raison pour laquelle il est surnommé Fisher Price.
Parce qu'hier, la présidente de la Haute Autorité de Santé nous disait qu'il y a un bénéfice collectif à vacciner les adolescents.
On est tout à fait d'accord, mais simplement, c'est vrai que ce type de phrase, quand on sait qu'il y a encore des anti-vax et de beaucoup de scepticisme, c'est catastrophique.
Comment on communique, Frédéric?
Mais oui, c'est drôle parce que Monsieur Fischer, déjà, c'est lui qui avait fait la première fameuse conférence de presse fin novembre, début décembre, où il avait mis plutôt en avant les précautions, les risques du vaccin. C'est ça avait, je dirais, enquisté l'opinion publique, non pas dans un rejet du vaccin, mais dans une forte incertitude, une certaine hésitation. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le débat sur la vaccination des plus jeunes, des adolescents, a réactivé le courant anti-vax sur les réseaux sociaux, sur quelques personnes assez illuminées, mais qui font des médias comme Francis Lalanne. Mmh. Mais politiquement, il s'est passé quelque chose. Le fait que le cap des 30 millions ait été franchi à l'heure, ça retombe positivement sur Emmanuel Macron. On a publié ce matin, Wendy, des indices de popularité du mois de juin. Il reste parfaitement stable à 40%, mais dans les raisons qualitatives, quand les gens s'expriment spontanément sur en quoi ils sont satisfaits, en quoi ils sont mécontents, pour la première fois depuis des mois et des mois, dans les raisons du mécontentement, ce n'est pas la gestion de la crise sanitaire qui arrive en tête, c'est l'insécurité, c'est des remarques plus générales sur les promesses non tenues. Et dans les raisons de la satisfaction, la vaccination devient le premier sujet de satisfaction sur le mode « il a tenu parole ». Il n'a pas, comme François Hollande, calé devant l'objectif quand le président Hollande avait promis d'inverser la courbe.
Et ils veulent continuer à communiquer. Nouveau spot de la vaccination lancé par le gouvernement. Écoutez.
À chaque vaccination, c'est la vie qui reprend. Faisons-nous tous vacciner, maintenant. Tous vaccinés, tous protégés.
Voilà. Où l'on voit les t-shirts qui se lèvent sur les épaules, les vaccins administrés, beaucoup de jeunes et en rappel de ces vaccins, les lieux qui ouvrent, les lieux de spectacle, les terrasses, la vie qui reprend, Philippe.
C'est un excellent clip, vraiment c'est un modèle de bonne communication pour le coup sur la vaccination. Il faut qu'on ait la même chose sur la contamination dans l'air, ce serait génial, et il faut qu'on adapte les lieux qui accueillent du public. Il y a une polémique en cours sur les TGV. Les TGV ne sont pas assez protégés.
Oui.
Les TGV sont contaminants.
D'ailleurs, si il faut porter un masque FFP2.
Ah oui, si vous allez dans le TGV, surtout portez un masque FFP2. Essayez de, essayez de vous protéger le maximum. Ne mangez pas, s'il vous plaît, si vous voulez vous protéger. L'entourage, ne mangez pas, ne passez pas 4 heures à manger un paquet de chips. Et ça, c'est des choses qui pourraient être travaillées. On a les connaissances et on a les matériels et ça ne coûte pas excessivement cher. Mmh. Et il faut qu'on le fasse, ça nous évitera un mauvais réveil en septembre. Ou avant, d'ailleurs.
26% des Français vaccinés totalement en France, c'est moitié moins qu'aux États-Unis, c'est 62% en Israël. Mais ces nations-là ont connu aussi des décélérations dans ce rythme vaccinal. Donc il faut communiquer. Peut-être même, disent certains, ça revient, Gilles Pialou, notamment l'épidémiologiste, rendre obligatoire la vaccination. Alors ça, c'est compliqué. Emmanuel Macron dit non, très clairement.
Emmanuel Macron s'est quand même posé la question avant d'y répondre. La question a été sur la table et elle y est encore, d'après ce qu'on comprend, effectivement, pour certaines catégories de la population. Peut-être les plus fragiles, peut-être les immunodéprimés, peut-être les personnes à comorbidité, comme on ne va pas les citer pour ne pas les stigmatiser. Bref, vous avez compris de qui je parlais. Peut-être certaines catégories, devraient être davantage incitées. Faut-il obliger ou pas ? C'est compliqué. Il me semble aussi que, outre la communication, il y a tout un travail aussi d'approche. C'est-à-dire qu'il faut aller vers les gens, il faut leur apporter le vaccin. Tout le monde n'a pas de smartphone, tout le monde n'a pas accès à Internet. Et il faut aller aussi avec les médecins, doivent aller, les infirmiers, les pompiers, etc., vacciner les gens là où ils sont.
50% des professions médicales seulement sont vaccinées. Et donc, on rappelle ce que dit de l'obligation vaccinale Emmanuel Macron. Les gens, quand on leur laisse la liberté, on les convainc. Si on leur dit c'est obligatoire, ils vont dire waouh, qu'est-ce qu'il nous fait, Emmanuel Macron ?
Oui, c'est vrai que cette alternative, l'obligation, je crois qu'il y a des vaccins obligatoires, même il y en a énormément.
Il y en a presque une douzaine pour les enfants.
Les enfants. Mais c'est vrai que décréter aujourd'hui, je ne suis pas spécialiste de la question du tout, mais une obligation absolue de ce vaccin, ça ne peut que électriser le débat. Ça peut que réactiver ce courant anti-vaccin minoritaire en France, mais qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Moi, je crois plus, comme Emmanuel Macron, à une double stratégie, communication, persuasion. Mmh. Et puis, si tu ne vas pas à Lagardère ira à toi. Voilà. Allez sur le terrain, allez chercher un par un, si je puis dire, les personnes qui n'ont pas eu cette information, qui sont rétives, parce que Voilà, on sait très bien la difficulté pour certains d'utiliser les outils digitaux.
Et dépasser ce plafond de verre.
Il y a quand même cette crispation là des soignants, c'est-à-dire 50% uniquement vaccinés. Il faudrait quand même ouvrir un débat au sein de cette profession. Oui. Savoir pourquoi, qu'est-ce qui ne passe pas, qu'est-ce qui bloque.
C'est étonnant, merci. C'est
très étonnant.
On fait une petite pause, 18h46 dans ce débat des grandes voix. Et on va entrer dans une semaine éminemment politique. Les candidats au régional sont dans la dernière ligne droite. À tout de suite.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
18h49, les grandes voix d'Europe 1. Laetitia Krupa, Frédéric Dabi, Philippe Moreau-Chevrolet sont avec nous. Et je compte dans ces grandes voix, évidemment, la grande voix du sport et du tennis en particulier. Corinne Boulou, vous qui êtes au cœur de ce match du moment, 3h37 de jeu. On se rapproche du dénouement, Corinne.
Oui, en tout cas, Novak Djokovic vient de faire le break. Il vient de prendre le service de son adversaire. Il mène 2-1. Il est au service pour tenter de confirmer cet avantage. Il est en train de prendre l'ascendant, là, maintenant, le numéro 1 mondial face au jeune grec Stefanos Tsitsipas. On va voir s'il arrive à se défendre. Mais pour le moment, 30-0 sur le service de Djokovic qui peut mener 3-1 dans quelques minutes.
Merci Corinne Boulou. 18h50, Philippe Moreau-Chevrolet. Alors, c'est le tennis pour la soirée. C'est aussi la politique qui anime tous les candidats en campagne. Et je crois que vous vouliez parler de ceux qui sont sur le terrain. Gérald Darmanin, Marlène Schiappa dans les Hauts-de-France et en Ile-de-France. Ils vous inspirent.
Oui, ils sont très, très en forme, hein, faut avouer, Darmanin et Schiappa. Alors Darmanin nous a dit ce matin qu'une victoire du RN dans les PACA serait le signe de Satan. Oui. Donc on ne sait pas très bien pourquoi ce serait une marque satanique, c'est son expression. Alors, ça a été beaucoup commenté. On se pose la question, les mélenchonistes accusent Darmanin d'utiliser le même langage que certaines sectes complotistes, notamment la secte Canon, qui avait envahi le Capitole aux États-Unis, parce que le registre satanique, c'est plutôt leur truc. D'autres disent qu'il fait du Trump, il cherche à capter l'attention, ils n'ont vraiment plus d'arguments à opposer à Mariani. Sachant que Mariani a été quand même beaucoup poussé par LREM au début, par une sorte de maladresse qui en a fait le principal adversaire de tout le monde. Enfin bref. C'est leur Frankenstein, un peu, Mariani à LREM, donc c'est une situation compliquée. Schiappa a fait applaudir dans une minute tout à fait qui rappelait Ségolène Royal en 2007. Vous savez, ces grands meetings évangélistes où elle avait une toche blanche et où elle disait à tout le monde d'être positif. Elle a fait la même chose avec une poignée de militants LREM, oui, en leur faisant applaudir Macron. Et on voit bien qu'il y a un clivage qui est en train de vouloir se créer entre le bien et le mal. Et je pense que c'est assez littéral. Et LREM joue la carte du bien contre le mal en disant « Nous, on est le bien, on est positif, on est la France qui va bien, qui se projette vers l'avenir, on est la majorité silencieuse des Français qui vont bien. Nos adversaires sont des râleurs, des grincheux et puis des gens qui sont vraiment mal, enfin qui représentent le mal absolu. » C'est un peu le scénario hollywoodien, c'est un peu Bruce Willis, c'est un peu Piège de cristal. C'est pas très français, c'est très américain, c'est très marketing en fait. Est-ce que ça va fonctionner après tout? On n'en sait rien, mais en tout cas, c'est leur stratégie. D'un autre côté, on constate que 78% des Français, d'après un sondage Ouest-France récent de la Fondation pour l'innovation politique, veulent voter au premier tour d'une façon protestataire. Donc on a le choc entre deux trucs, une stratégie qui a l'air de tenir sur le papier de la France qui va bien, et d'un autre des chiffres qui sont à la fois très bon pour le président et très mauvais pour l'élection en général. Donc c'est une situation indéchiffrable. Oui, enfin, peut-être que Frédéric Dabi sait déchiffrer. Non, c'est tout déchiffré, Frédéric, donc je ne vais pas m'avancer.
Je vais essayer. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec l'analyse que fait Philippe. C'est vrai que c'est ce qu'on se disait hier. Hystériser le débat, délégitimer l'adversaire, c'était un de nos débats d'hier. Je pense que en stigmatisant le diable, l'extrême droite, je pense que ça fatigue les électeurs. C'est en décalage complet avec leurs préoccupations. Ils cherchent pas à remplir leur caddie d'extrême droite, mais voilà, de vivre, avoir une vie heureuse. Et ça, comment dire, ça, au lieu de déconstruire l'offre programmatique du Rassemblement national, de proposer des choses alternatives, on entend que c'est différents anathèmes. Moi, je pense que ça construit de l'abstention. Nos indicateurs IFOP fiduciaires annoncent une abstention de plus de 60% aux élections régionales. C'est du jamais vu pour une élection régionale. Ça fait 24 à 25 millions d'électeurs. Là où je nuancerais, c'est cette étude Fondapol. Je trouve bizarre d'additionner dans la protestation le vote Mélenchon, le vote Le Pen, puisqu'on a vu que maintenant, on peut s'en réjouir ou le déplorer, qu'il y a du vote d'adhésion pour Marine Le Pen, et surtout dire que l'abstention est 100% protestataire, Ce n'est pas vrai. Il y a une abstention de désaffiliation, on ne croit plus du tout en la politique, et il y a cette abstention de vanité du vote. Ce n'est pas de la protestation, mais on pense que voter, ça ne sert à rien, ouais, et ça ne change pas la vie.
De la lassitude, de la déception, il y a beaucoup de causes, bien sûr, à cette abstention. Alors moi, juste pour nuancer un peu la ligne de Colm, RN égale Satan, je me suis posé la question, Philippe, vous avez peut-être la réponse, parce qu'il y a deux lignes de Colm. Effectivement, vous avez raison, j'ai relevé que, par exemple, en Bourgogne-Franche-Comté, un élu LREM disait que l'élection potentiel hein, de O'Doul représenterait une marque satanique. Donc il me semble que c'est un élément de langage, c'est-à-dire que les élus LREM ont reçu ces petites phrases comme ça à disséminer ça et là dans les interviews pour que ça crée effectivement
c'est une pas un dérapage de Darmanin alors ce serait une phrase
ça serait ah bah un écoutez élément de langage.
Moi j'en ai je l'ai relevé là aujourd'hui et ah oui. D'un autre côté, il y a quand même
mais un quel
autre...
regard, pardon, sur les électeurs du RN. Hein.
Bien sûr, donc, mais justement, il y a une autre stratégie qui consiste à dire, et c'est Marlène Schiappa aussi qui l'a dit ce matin, le RN, c'est de l'arnaque. Mmh. Et par exemple, quand on lit Renaud Muselier dans JDD aujourd'hui, il dit aussi, c'est une équipe de sous-doués. Oui. Donc, vous voyez, il y a ces deux stratégies, c'est-à-dire délégitimer le RN en disant qu'ils sont incompétents, il me semble que ce serait plutôt la bonne stratégie à adopter que de dire, vous savez, cette récurrente critique de se reporter aux racines nazies du Front National, ancêtre du Rassemblement National, qui finalement ne fonctionne pas vraiment sur les électeurs.
Ah, il vaut mieux cibler les équipes que les électeurs, hein, Philippe Manchevrol.
Oui, vaut mieux, c'est la bonne stratégie, effectivement. Mais le Rassemblement National et Marine Le Pen est bien en train d'attaquer la technocratie en disant, nous, on n'est pas du tout des technos, on n'est peut-être pas super aussi intelligents, aussi fonctionnels que ceux qui sont au pouvoir, mais vous voyez bien que la technocratie, ça ne marche pas, donc votez plutôt pour des gens qui ont du bon sens. Mmh. Alors c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est embêtant, parce que ça signifie que le choc entre ceux qui savent et des ignorants, ça marchera moins bien. Après, sur le satanique, si c'est vrai ce que vous dites, Laetitia, je suis extrêmement surpris que ce soit un élément de langage, parce que je ne vois pas la rationalité, c'est même franchement inquiétant.
C'est une hypothèse, parce que quand je lis dans la bouche c'est de plusieurs élus ou ministres du même camp les mêmes mots, oui, non, en général, c'est rarement une
raison, coïncidence. Laetitia, mais c'est surprenant.
Oui, mais c'est vrai que c'est très surprenant. Moi, ce que je comprends dans le côté satanique, ça serait que si, par exemple, Provence-Alpes-Côte d'Azur basculait au Rassemblement national, quid de l'attractivité touristique, quid des grands festivals culturels, il y aurait une marque, maudite. C'est comme ça, mais c'est extrêmement maladroit. Stigmatiser comme cela, au lieu, comme je le dis, de par exemple déconstruire le programme et puis dire, j'ai pas le pourcentage exact, mais depuis 2015, on a une part très importante d'élus régionaux du Rassemblement National qui n'ont pas fini leur mandat, sont fourvoyés dans des déclarations. C'est ça, c'est une question de fait et puis de crédibilité.
Oui, tout leur programme est basé.
Ce qui risque de se produire, c'est que Mariani risque d'être élu, il va gérer la région et dans un an, on dira, mais regardez, ça se passe bien parce qu'il va faire des efforts jusqu'à la présidentielle pour que ça passe. Et dans ce cas, l'argument se vide complètement.
Oui, leur
programme, juste pour dire, il est basé, enfin, je vais pas donner non plus des pistes à LREM, hein, mais bon. leur programme est basé sur la sécurité qui n'est pas une compétence de la région.
C'est une question que je poserai à Sébastien Chenu, qui nous rejoint dans un petit quart d'heure, parce que le slogan de campagne de Sébastien Chenu, c'est la région qui vous protège.
Eh oui.
Formule ambiguë qui interroge beaucoup. On termine avec quelques petits mots que vous vouliez adresser à Jean Castex.
Oui, Jean Castex.
Depuis son domicile, il est en quarantaine.
Le pauvre.
Jean Castex, qui souhaitait reconquérir comme Emmanuel Macron, comme le chef de l'équipe, le cœur des Français. Lui aussi, il voulait prendre son petit bâton de pèlerin pour aller soutenir les candidats de La République En Marche au régional. Et puis, patatras, sa femme est contaminée par le Covid. Il est cas contact. Alors, à la Matignon, je peux vous dire qu'on croise les doigts très fort pour que mercredi, son test soit positif. Et qu'il
négatif.
Ouh là !
Il portait pas malheur.
Mon Dieu. Et pour qu'il puisse repartir, oui, parce que figurez-vous que la petite rumeur, alors ça, c'est vraiment une musique qu'on entend inexorablement, et je me demande pourquoi à chaque fois, la petite rumeur de son remplacement a déjà commencé. Donc Jean Castex doit revenir sur le terrain. On lui souhaite bien sûr un prompt rétablissement.
Laetitia Krupa, Frédéric Dabi, Philippe Moreau-Chevrolet, les grandes voix d'Europe 1 que vous retrouvez samedi prochain et à mes côtés dimanche soir pour le 18-20 et pour la spéciale premier tour des régionales 19h30, 22h30. Merci beaucoup et à tout de suite pour l'info avec Sophie Tussaud.